Bien, donc nous allons commencer cette troisième conférence débat du salon. C'est la dernière. Donc le thème, c'est quand même un thème qui est dans pas mal de têtes aujourd'hui. Je vous le lis, hein, mais c'est la question de l'accessibilité de toutes et tous à une alimentation de qualité et à la possibilité de choisir son alimentation. C'est-à-dire qu'on l'a traduit comme ça. L'agriculture paysanne et ou bio pour nourrir toute la population ou seulement la partie la plus aisée. On a pu débattre de cette question parce qu'elle se pose avec de plus en plus d'acuité et aussi de plus en plus elle est l'objet de préoccupations, de réseaux qui sont engagés dans cette modification à la fois du modèle agricole et aussi du modèle alimentaire actuel. Donc, je veux présenter les intervenants. Donc là, Mathieu Dalmet, qui est là au titre du collectif national qui agit et qui développe des réflexions autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Juliette Godet, qui ici anime ce qu'on appelle VRAC Saint-Étienne, c'est-à-dire vin en réseau d'achat en commun, qui va développer sa première distribution dans le quartier Beaubrun-Tarentaise de Saint-Étienne, qui est le quartier, si je ne me trompe pas, le plus pauvre de la ville. Et Josiane Günther, qui est de l'association Terrain d'Entente et aussi qui fait partie, on y reviendra tout à l'heure, d'un collectif qui s'est monté ici, qui s'appelle le collectif... solidarité alimentaire. Et on ne le présente plus, mais bon, pour ceux qui n'étaient pas là lors des débats précédents, donc il y a notre parrain, Jean-Claude Balbeau, qui est ancien paysan breton, qui a été administrateur du réseau national des CIVAM et qui est actuellement administrateur de l'atelier paysan qui vient de sortir un livre là, qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines » et dans lequel il pose les questions de démocratie dans l'alimentation. Donc, et moi, c'est moi qui vais animer cette conférence débat. Donc, moi, je suis administrateur à la ferme au quartier et membre du collectif d'organisation de ce salon Vers de terre. Bon, dans le collectif d'organisation du salon Vers de terre, nous, on souhaite faire du droit à l'alimentation un droit pour toutes et pour tous. Alors, pour nous, droit à l'alimentation, parce qu'il faut se mettre d'accord sur la signification des termes parfois, droit à l'alimentation, ça signifie la possibilité pour toute la population de choisir son alimentation et d'accéder à une alimentation de qualité. Or, aujourd'hui, il y a des millions de gens en France, sur le territoire national, qui ne sont pas en capacité ni de choisir leur alimentation, ni d'accéder à une alimentation de qualité. Et les choses s'aggravent. Et l'autre jour, en préparant cette conférence débat, on a regardé des chiffres. Mais c'est un enjeu d'autant plus important à Saint-Étienne que si, au niveau national, 14% de la population se situe en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est déjà considérable, hein, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est 8-9 millions de personnes. Hein, considérable. Hein, et les choses ne vont pas régresser. À Saint-Étienne, par contre, 28% de la population se situe en dessous du seuil de pauvreté, le double. Donc c'est dire si ici, les choses se posent avec une particulière acuité. D'où ici des réflexions, comme ailleurs sans doute, hein, et des initiatives pour commencer à trouver des réponses. Je parlais tout à l'heure du collectif de solidarité alimentaire, mais c'est des gens qui se sont mis en réseau et qui réfléchissent à comment ils apportent des réponses à cette question-là. Réponses qui ne peuvent pas, à notre sens, venir de l'aide alimentaire telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, qui fait partie, l'aide alimentaire telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, partie intégrante du système actuel qui ne permet pas de nourrir toute la population décemment. Hein, qui fait partie donc du système agro-industriel, comme on dit, hein, qui est un élément totalement intégré au système agro-industriel, qui permet d'écouler la surproduction du système agro-industriel, tout en le valorisant d'ailleurs. Voilà un peu le problème, et c'est pas facile de trouver le moyen de résoudre l'équation, parce qu'il faut à la fois que les paysans puissent avoir des prix rémunérateurs, qu'ils puissent vivre de leur travail, mais en même temps il faut que les paysans ils puissent nourrir toute la population. enfin, les paysans qui produisent une alimentation locale de qualité, ouais, qui puissent nourrir la population correctement. Moi, je vais d'abord commencer par Juliette et Josiane, là, parce que donc, vous faites partie de ces collectifs et réseaux qui développent ces réflexions et des initiatives et qui agissent. Alors peut-être, pour poser le décor, hein, où en est-on ici dans la région stéphanoise et dans les démarches auxquelles vous participez ?
Bien, bonjour. Donc, Georges parlait de l'association Terrain d'Entente qui est présente sur le quartier de Tarentaise, donc à 5 minutes d'ici, depuis 10 ans, avec vraiment la volonté de rejoindre tous ceux qui sont très peu pris en compte, hein, dans leurs préoccupations et dans leurs aspirations au niveau institutionnel et au niveau de tous ces beaux réseaux qui se développent. Je dis beaux réseaux parce que je pense qu'effectivement, c'est des réseaux nécessaires. Donc, Georges parlait de cette augmentation du seuil de pauvreté, et je pensais que c'était important de dire un peu qu'est-ce que ça voulait dire d'être en dessous du seuil de pauvreté, qu'est-ce que c'était qu'être un précaire. Alors, pas pour faire pleurer dans les chaumières, comme disait Jean-Claude ce matin, mais plus pour prendre bien la mesure de c'est quoi, aujourd'hui, de vivre dans cette précarité. Donc, je trouve que ce qui est essentiel, c'est effectivement des ressources insuffisantes pour vivre. Mais surtout, c'est l'absence, c'est l'impossibilité d'imaginer que l'avenir peut être un peu plus clément, un peu meilleur. Et c'est la peur que demain soit encore pire. Et ça, ça construit toute une façon de vivre le quotidien. Donc, il y a vraiment cette difficulté de construire des liens avec les autres parce que c'est la honte de parler de ces problèmes, avec toujours la peur de ne pas se sentir compris et de se sentir jugé. Donc il y a vraiment cette difficulté à rentrer en lien. Donc il y a beaucoup d'isolement. Et il y a de plus en plus de renoncements et des renoncements à des choses carrément essentielles comme des démarches pour faire valoir des droits. Donc on est dans ce climat où le quotidien, c'est faire face à des galères permanentes, hein, qui n'étaient pas prévues, et puis courir tous les jours pour chercher des promos qui permettent de trouver des produits les moins chers possibles pour faire vivre la famille. Donc ça crée toute une dynamique particulière. Alors bien évidemment, hein, dans cette réalité, il y a des gens qui savent développer une âme de guerrier et qui se battent envers et contre tout et qui participent à des réseaux. Donc certains d'entre eux sont des vraies lumières et des appuis. Georges parlait de la pauvreté qui s'aggrave et on l'a vraiment constaté très fort, hein, alors on l'a dit dans les médias, hein, suite au premier confinement, on a beaucoup entendu parler de surendettement et de recours aux aides. Donc être un aidé, c'est pas une simple affaire et ça se mérite. Hein. Avoir un colis alimentaire, il faut avoir l'aval du service social, donc il faut justifier, il faut rendre des comptes sur ces ressources insuffisantes. Et puis les associations caritatives qui ont été saturées de demandes pour essayer de faire face, elles ont pris le parti de réduire la possibilité d'avoir accès à des colis. Donc pour certains, en fonction de la situation familiale qui est cadrée et qui est décidée, on aura des colis pendant quelques mois ou on aura un colis par mois. Voilà, quand on est demandeur d'aide, on décide de rien et on subit tout, mais d'une façon permanente. Alors effectivement, les colis alimentaires, c'est la banque alimentaire. Donc c'est les excédents, hein, de l'agro-industrie et de la grande distribution qui permettent aussi de faire du profit là-dessus, parce que c'est des produits qui sont défiscalisés. C'est les produits des colis alimentaires, c'est 95% de l'industrie alimentaire. Donc les pauvres, on leur donne des produits qui étaient destinés à être jetés. Donc ça, c'est tout un rapport, hein, qu'on a dans la société. Donc on est assigné à résidence, hein, on est assigné sur un territoire, et il y a vraiment cette dynamique d'enfermement qui peut se perpétuer. Le problème aussi, c'est qu'effectivement, quand on ne choisit pas ce qu'on a dans son colis alimentaire, il y a énormément de gaspillage. Puis c'est compliqué de recycler une alimentation de mauvaise qualité parce que ça s'abîme très vite. Et puis aussi, on en a parlé très vite ce matin, mais c'est quand même une réalité prégnante, notamment dans cette situation de crise sanitaire. L'alimentation qui est polluée pose des problèmes énormes de santé. Donc on a parlé des perturbateurs endocriniens, et puis aussi tout ce qui est question de diabète, obésité, hypertension, voilà, qui sont des questions autour de la malbouffe et du mal-être. Donc notre volonté à Terrain d'Entente et avec plein de collectifs qui s'articulent autour de tout ça, c'est justement essayer de créer du bien-être, et ça passe aussi par une alimentation de qualité accessible. Hein, La qualité, c'est l'accessibilité, en fait, de l'alimentation. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, on a démarré VRAC avec l'idée que c'est des produits qui sont à prix coûtant, mais le prix coûtant, pour beaucoup, reste encore trop cher. Donc, il y a chaque fois des choses à développer. Donc, Juliette va nous parler de tout ça, mais ce que je voudrais dire, surtout, si je vous ai fait ce petit laïus sur la précarité, c'est parce qu'on se rend compte que toutes ces personnes, elles sont tellement envahies de préoccupations multiples qu'elles n'ont pas la disponibilité mentale pour s'intéresser à tous ces collectifs qui agissent, qui sont leurs affaires, qui les concernent vraiment. Bouffer bien, c'est vraiment une question du quotidien et c'est un problème de ne pas pouvoir le vivre. Et si on ne va pas à la rencontre de ces gens, il y a plein d'informations qu'on n'aura pas. Il y a plein de situations qu'on ne comprendra pas et il y a plein de choses qu'on ne pourra pas décoller ensemble. Il y a toute une force potentielle qui est possible si on rejoint les populations pour lesquelles ça va très mal. Et ce que je ressens aussi, parce que je connais plein de gens depuis 10 ans, il y a toute cette force, cette âme de guerrier qui se développe quand on a des galères. Et ce savoir-faire galère du quotidien, je pense que dans nos réseaux, on a besoin de s'en saisir parce que je trouve que très vite, on s'essouffle, on se fatigue parce qu'effectivement, le climat est rude à soutenir. Et cette capacité, cette qualité à recevoir tous les coups et à les accrocher et à ne pas renoncer, je pense qu'on peut, on peut aussi développer de l'entraide qui va nous permettre aussi de nous saisir de tout ça. Il y a un bouquin qui est magnifique qui parle de la puissance des pauvres. Ce n'est pas pour dire que les pauvres, ils sont mieux que qui que ce soit. C'est l'idée qu'on n'a pas le choix. Quand on est pauvre, on est obligé de créer des relais et des liens. Donc tous ces savoir-faire, je pense qu'on peut s'en saisir. Et puis aussi, je voulais reprendre l'appel, parce que je l'ai trouvé hyper important, l'appel des organisateurs de ce salon Vers de Terre autour de la pandémie. Parce qu'effectivement, bon, il y a le vaccin, il y a plein de choses. Le vaccin est sans doute, a sans doute son utilité. Mais on sait qu'effectivement, les virus, les maladies, ça s'attaque aux organismes très faibles. Donc le virus, il tue quand on va très mal, quand on a des problèmes de comorbidité. Et essayer aussi de contribuer à se sortir ensemble de cette crise sanitaire, ça sera aussi trouver une façon de vivre mieux tous ensemble. Et ce que je ressens très fort, et en même temps, je sens que c'est possible, et en même temps, je trouve ça désespérant, je suis très triste aujourd'hui. Toutes les nanas que je connais qui habitent à côté ne sont pas venues parce que je pense qu'elles ne se sentent pas légitimes, hein, de venir dans ces beaux endroits où on discute, on anime des réunions, on fait des débats. C'est très malheureux. Et je me dis que c'est cet enthousiasme-là qu'on retrouve tous ensemble pour redévelopper de la force, en fait. Voilà.
Merci. Donc justement, peut-être Juliette, tu pourrais dire quelles sont les initiatives qui sont développées ici pour dépasser ce constat que fait Josiane sur cette question de violence sociale, de grave violence sociale, telle que fonctionne l'aide alimentaire actuellement.
Du coup, ouais, Josiane l'a dit, et Georges aussi, tu l'as dit en propos préliminaire. On n'a pas tous le choix. On a tous l'obligation de manger pour vivre, mais on n'a pas tous le choix dans ce qu'on mange. Une grande partie de la population n'est pas aussi privilégiée, n'a pas autant la chance de pouvoir consommer des produits bio, des produits de qualité, des produits locaux et tout ça, pour des raisons multiples, pour des freins qui sont multiples. C'est pas toujours le prix, même si le prix y est pour beaucoup. Il y a des questions d'habitudes alimentaires, des questions de freins un petit peu psychologiques. Il y a des choses qui sont très marquées aussi socialement, même au niveau de la classe sociale, parce que voilà, consommer en vrac, avoir l'habitude de faire ses courses en vrac, il faut prendre le pli, hein, c'est pas toujours très très simple. Du coup, il y a une énergie collective sur Saint-Étienne avec beaucoup de beaux projets, beaucoup d'énergie qui se sont mises en place pour monter de l'action collective qui va dans le sens de la solidarité alimentaire et qui cherche à monter des réponses locales à ces enjeux qui sont nationaux et qui sont partagés par tous. Et du coup, Josiane a parlé de choix. Il s'agit en fait de redonner du choix aux gens parce que les personnes qui sont privilégiées, elles ont le choix, il n'y a pas de souci, on peut se permettre de manger les bons produits, peut-être voilà, de dégager une certaine partie de son budget pour se payer des produits sympas, des produits qui peuvent être un peu coûteux, mais on se dit, bon, ok, c'est quand même c'est important de soutenir les paysans, J'en ai les moyens et j'estime que voilà, dans mon système de valeurs, c'est OK. Mais il y a donc tout un tas de freins, je le disais, qui se posent pour tout un tas de personnes, donc des freins culturels, des freins psychologiques, des freins géographiques aussi, d'accessibilité à ces produits-là, et surtout financiers. Il y a donc différents projets sur Synthé qui se sont montés pour répondre à ces enjeux-là, notamment celui de l'aide alimentaire. Il y a notamment les brigades de solidarité qui s'adressent aux personnes pour qui l'aide alimentaire est même inaccessible, en fait. Parce que Josiane l'a dit, pour avoir de l'aide alimentaire, déjà l'aide alimentaire, c'est pas tous les jours, en fait. On va pas tous les jours chercher son plein de courses. C'est plusieurs fois par mois, une ou deux fois par mois. Enfin, j'ai pas le terme exact, mais s'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui se sent éclairé un peu là-dessus, ça peut être super intéressant. Mais donc voilà, les brigades de solidarité qui font un travail énorme et que je vous encourage à soutenir pour permettre déjà au ventre de se remplir, mais qui participent aussi dans le collectif de solidarité alimentaire à réfléchir sur comment on peut remplir les ventres, mais bien les remplir avec des bons produits, avec des choses qui ne nous tuent pas, qui sont saines, qui sont bonnes pour nous et pour l'environnement. Voilà, donc déjà, ça, c'est une chose. Il y a aussi d'autres projets donc dans le solidarité alimentaire. Il y a la fourmilière et les personnes dans l'Assemblée qui pourront vous raconter aussi ce que fait la fourmilière pour réfléchir sur ces thématiques et poser des choses très concrètes pour rendre possible une alimentation plus qualitative à plus de gens. Moi, je m'occupe de l'association VRAC. VRAC, c'est vers un réseau d'achat en commun. C'est une association qui est née à Lyon il y a 8 ans et qui est née il y a un peu plus d'un an et demi à Saint-Étienne. Pour rendre accessibles les produits qualitatifs au maximum locaux, bio et sans emballage, dans les quartiers. En fait, l'idée, c'est d'être dans les quartiers au plus près des personnes, de se greffer donc au réseau qui existe déjà, que ce soit les centres sociaux, les amicales laïques, les associations d'éducation populaire, pour organiser des groupements de commandes, en fait, une fois par mois. On va prendre en compte les commandes des personnes, des adhérents, et organiser une distribution mensuelle conviviale. C'est pas un magasin, l'idée c'est pas forcément de procéder en mode drive, voilà, je prends ma commande, je viens la chercher, je parle à personne, je passe en vite fait en 5 minutes. Là, c'est vraiment l'objectif de refaire du lien social aussi, d'échanger, de construire ensemble, de se dire tiens, mais moi j'arrive pas à trouver des couches, j'aimerais bien quand même avoir des couches pas chères et qui soient saines pour mes enfants. Donc on fait ensemble, on construit ensemble, on a des groupes de travail pour réfléchir à différents sujets, notamment les produits, l'approvisionnement, comment on peut trouver ces produits-là qui soient les plus qualitatifs, mais qui aient aussi cette qualité qu'est l'accessibilité. Une fois, Jean-Claude Balbo a dit cette phrase que je trouve assez belle, qui est que la première des qualités d'un produit, c'est aussi son accessibilité. Et si un produit est génial, qui a tous les labels possibles, qui est super bien produit, super top, mais qui est vraiment accessible, qui a une toute petite partie de la population, bah voilà, ça pose vraiment question. Donc c'est un peu la question qui nous anime aujourd'hui. Et donc il y a beaucoup d'actions collectives qui sont mises en place sur Saint-Étienne pour répondre à cet enjeu-là, pour construire un système qui soit vraiment solidaire en termes d'alimentation et qui soit vraiment accessible à tous. Il y a beaucoup d'idées, il y a un système de parrainage, par exemple, à la fourmilière qui est en train d'être réfléchi pour permettre à des fourmis, donc des coopérateurs, de pouvoir accompagner une personne qui n'est pas trop au fait de comment ça fonctionne, qui a besoin peut-être qu'on prenne un petit peu plus de temps pour lui montrer, pour l'acculturer, pour lui expliquer un peu comment ça marche. On réfléchit aussi avec des distributeurs, des magasins, donc la Biocoop, par exemple, Vrac en Vert et d'autres. Le terroir a un système de caisse de solidarité, donc une caisse monétaire, hein, très concrètement, pour voilà, avoir une caisse de solidarité qui permette c'est à construire, hein, d'ailleurs, mais qui permette peut-être à des personnes de pouvoir acheter des produits qualitatifs, mais à un prix très intéressant pour eux, ou alors en don. Enfin voilà, si vous voulez nous rejoindre, d'ailleurs, je lance un appel à toutes les bonnes énergies et toutes les bonnes idées sur cette question de la solidarité alimentaire. Mais donc voilà, je le dis, il y a plein de choses à construire. Et il y a aussi des idées donc de ramasse chez les paysans. Il y a souvent des surplus, des fois, chez les paysans du coin. Et donc on pourrait constituer des groupes de personnes qui sont partantes pour aller ramasser les produits et pour ensuite les partager. Enfin voilà, il y a beaucoup d'idées d'entraide, beaucoup de choses qui sont importantes. Voilà, je me permets donc de finir avec cette idée donc de... de la ramasse et du lien avec les paysans, parce qu'en fait, on parle beaucoup du prix, c'est hyper important, hein, on parle du prix, on parle du côté accessibilité, donc de l'aspect un petit peu plus consommateur, même si, bon, on aimerait bien ne pas être que des consommateurs, mais être des personnes plus prises en compte et qui s'impliquent plus. Et on s'est dit, donc, en préparant cette conférence, qu'en fait, il fallait pas simplement regarder aussi du côté du consommateur, du prix, mais qu'il fallait qu'on questionne aussi tout l'aspect production, le côté de ceux qui produisent, en fait. Et c'est pour ça que je fais la transition avec Jean-Claude, qui va plus nous parler de l'aspect, l'aspect producteur, l'aspect paysan, parce qu'ils ont aussi tout leur mot à dire sur cette question de l'accessibilité de l'alimentation de qualité. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour la partie débat.
Merci Juliette. Vrac qui a un stand dans le village paysan, donc vous pouvez avoir toutes les informations si vous voulez participer à cette belle initiative. Jean-Claude, je suis un lecteur fidèle des derniers bouquins de l'atelier paysan, et donc j'ai lu et relu le dernier livre Reprendre la terre aux machines. Et vous avez beaucoup réfléchi donc sur cette question de l'aide alimentaire telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et vous avez conclu que c'était quelque chose qui était un pas intégré au modèle agro-industriel. Donc il faudrait, peut-être que tu pourrais développer là-dessus un petit peu pour donner la conclusion à laquelle vous avez abouti. Et puis aussi... vous parlez beaucoup de la question de comment on crée un mouvement social en capacité de modifier les choses pour aboutir à une véritable démocratie dans l'alimentation. Un mouvement social qui ne parle pas simplement de la question de l'offre, et puis chacun devra choisir l'offre qui est présentée, mais qui intègre aussi les questions de la demande, c'est-à-dire la capacité des gens à dire ce qu'ils veulent. Et quel choix, voilà. Est-ce que tu peux, sur ces questions-là, réagir ?
Oui, je veux bien, surtout sur la première partie, parce que je vois que Mathieu est là, et je pense que si on veut se répartir la parole, il est plus simple que moi, je vous explique pour quelles raisons des paysans s'intéressent à cette question-là, et que Mathieu, puisqu'on travaille ensemble, hein, on se connaît, on est dans l'entre-soi, là, tout à fait, celui qu'on dénonçait précédemment, Mathieu et moi, on a passé 2 jours en début de semaine ensemble à faire de la formation politique pour les militants du réseau Impact. Donc on est vraiment très proches, et je pense que Mathieu est plus à même que moi, enfin autant à même que moi, et donc plus à la place que moi aujourd'hui pour développer cette dernière partie. Par contre, je veux bien, oui, essayer de tenter d'expliquer pour quelles raisons, tout d'un coup, un paysan est venu faire des commentaires sur les constats que vous avez faits de la pauvreté alimentaire. Alors d'abord, je vais rectifier, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Ce travail sur l'accès à l'alimentation qui nous a fait découvrir l'aide alimentaire comme étant un vecteur de la production agricole, un totalement intégré dans la chaîne de production agricole, c'est au sein du réseau CIVAM. Alors, je ne sais pas s'il y a des CIVAM dans le département ici, ça je serais incapable de vous le dire, mais le réseau CIVAM, c'est une organisation professionnelle agricole, regroupe à peu près 12 000 fermes en France, qui est représentée dans une moitié de la France. Il y a des départements où il n'y en a pas. Donc c'est au sein de ce réseau-là qu'on s'est lancé il y a 10 ans dans une recherche sur l'accès à l'alimentation. Et alors, sans vouloir attirer de quelconque gloire là-dessus, je pense qu'il y a 10 ans, quand on a posé cette question-là, personne ne se l'a posée. Et je pense que si on ne l'avait pas posée il y a 10 ans, peut-être que d'autres l'auraient posée 2 ans après, ça c'est possible. En tout cas, si on ne l'avait pas posée il y a 10 ans, on ne serait pas aujourd'hui en train d'en parler. C'est important de le dire. Parce que quand on va parler tout à l'heure de la sécurité sociale, de l'alimentation et de son fonctionnement, pour parler de démocratie dans l'alimentation, il faut jamais oublier que ce n'est pas une solution qu'on vous propose. Ce n'est pas quelque chose qui va venir comme un remède à vos malheurs. Il y a un long processus de compréhension de ce qui nous arrive, de la situation dans laquelle on est, nous paysans, vous consommateurs, mais vous venez déjà de l'évoquer. Je vais vous en dire un peu plus sur où nous en étions quand nous nous sommes posé cette question. Et au bout de ce processus, il y a des propositions de socialisation de l'alimentation, dont un des éléments est la sécurité sociale de l'alimentation. Mathieu se chargera tout à l'heure de cette dernière partie. Moi, pourquoi dans un réseau paysan, en 2008-2009, tout d'un coup, se pose la question, pourquoi sur une ferme, tout d'un coup, se pose la question de ce qu'on appelait à l'époque la justice alimentaire ? On constate dans une ferme menée suivant les préceptes de la durabilité agricole, pendant des années sous, comment on appelle ça à l'Église, là, le truc qui domine les fidèles, sous le cahier des charges de l'agriculture biologique au-dessus de nos têtes, les préceptes de l'agriculture durable pendant 40 ans. La vertu intégrée, la vertu incarnée des exploitations du réseau CIVAM, la mienne en particulier, qui produisent un revenu conséquent pour son... Enfin, conséquent, je vous rassure, hein, ça, on ne devient pas millionnaire. Hein. Enfin, plus conséquent que la moyenne en France, en tout cas, sur son effet. Pourquoi tout d'un coup, vous vous dites, mais ça ne marche pas le système? Parce qu'à un moment, vous constatez qu'il y a une grande partie des Français, vous enlevez la merde que vous avez devant les yeux, et quand vous faites de la vente directe, des marchés, que vous envoyez vos produits dans les coop bio, ce qui n'a pas été longtemps mon cas, mais qui a quand même, quand vous faites des livraisons chez des clients en vente directe, vous n'avez en face de vous comme client que les gens que vous êtes aujourd'hui, habillés, physiquement à peu près tenus les mêmes. On voit bien que c'est des lieux, je connais les lieux où vous habitez, je sais à quoi vous êtes abonné comme journaux, je sais quelle chaîne de télé vous regardez, je sais à peu près quel est votre revenu. On ne fait que ça, on ne livre que ça pendant 40 ans. Or, on se réclame de la durabilité sociale. Ça fait partie de nos instruments d'évaluation de nos exploitations. Il y a un volet économique, un volet environnemental et un volet social. Dans ce volet social, vous vous dites, tiens, merde, il y a quelque chose qui m'a échappé. Donc, dans nos fermes, la durabilité sociale s'adresse au sort du paysan. Nous réclamons une durabilité sociale parce que le paysan est rémunéré, parce qu'il est capable de transmettre sa ferme, parce que éventuellement sa femme, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein, parce que éventuellement sa femme est déclarée, parce que sa ferme est transmissible et que ses enfants, et que lui a eu le temps d'aller au conseil municipal. Il y a ce genre de critères qui font que l'agriculture est durable socialement. Aucun critère dans le réseau CIVAM ni ailleurs ne concerne la destination de la nourriture que nous produisons. Et là, tout d'un coup, vous découvrez que vous nourrissez entre 5 et 10%. À l'époque, c'était 5. Alors maintenant, c'est entre 5 et 10% de la population française caractérisée telle que je viens de vous le dire. Et ça, ça vous exclut de dire que votre ferme est durable. Ça, vous ne pouvez plus vous réclamer d'aucune vertu ni d'aucune durabilité si vous nourrissez que 10% de la population. Ah, vous pouvez tenir des discours sur le fait que la tache d'huile va s'étendre. Il faudra juste faire gaffe de ne pas glisser dessus. Le disait très maladroitement, d'ailleurs, ce matin, Laurent. Donc, à partir de ce moment-là, on se demande, mais qu'est-ce qu'on a loupé? Et comment on va faire pour comprendre ce qui se passe? Et la question qui suit, c'est où se nourrissent les gens qu'on ne voit pas? Où se nourrissent les 90% de Français qu'on ne voit jamais devant nous? Et la première découverte qu'on fait dans ces cas-là, c'est que, pour une grande majorité des Français qui ne sont pas nourris par nous, la réponse, elle est immédiate, c'est l'aide alimentaire. Parce que dans le système de production, c'est totalement intégré. Dans le droit rural, les activités agricoles sont sérieusement définies. Voilà, vous pouvez faire de l'accueil touristique. Bon, la première, évidemment, c'est la production alimentaire. Mais après, on accepte que vous fassiez de l'activité touristique. Donc ça, c'est une activité agricole que vous pouvez intégrer dans votre plan d'installation. Hein, ça a des conséquences. C'est pas juste une bricole de dire. Hein. Eh bien, aujourd'hui, depuis 2010, dans les productions agricoles, dans ce qui définit un agriculteur, il y a l'aide alimentaire. Et l'aide alimentaire, donc on l'a découvert, on est parti à la découverte d'un continent inconnu. Hein. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais nous, il y a 10 ans, pour moi, l'aide alimentaire, c'était les Restos du Cœur, Coluche, et puis des gens qui faisaient le kéké à la télé une fois par an pour ramasser. Ça ne me serait même pas mieux à l'idée d'aller donner le moindre truc à un truc pareil. Je ne suis pas sûr que je le ferai aujourd'hui d'ailleurs non plus, mais pour d'autres raisons. Et 1,5 milliard de valeur, pas actualisée là aujourd'hui, je ne sais pas où on en est, 1,5 milliard de valeur économique dans le processus de production agricole. 1,5 milliard, pour vous donner deux chiffres côte à côte, 9 milliards, c'est le revenu colligé de la profession agricole en France. Donc 1,5 milliard, c'est structurant. Si votre revenu est de 9 milliards, vous avez 1,5 milliard, ça pèse à côté. Les PAT dont on parlait à l'instant, qui sont un instrument de politique publique nationale, c'est 45 millions. Et 45 millions, 1,5 milliard, 9 milliards. Vous voyez bien où est le choix politique public. Il est du côté de l'aide alimentaire qu'on va augmenter. On va lui trouver un autre nom et on va être emmerdé parce qu'il va falloir en faire la distribution. Mais on y collera des jeunes et on leur donnera le revenu universel et on leur dira d'aller distribuer l'aide alimentaire. Voilà comment on va se tirer l'affaire. Et dans nos fermes, nous, il a fallu qu'on dépatouille de ça. Il a fallu qu'on comprenne que dans cette situation-là, il serait difficile de venir soutenir dans une assemblée de citoyens nos fermes comme étant quelque chose de démocratique, quoi. Alors ça, c'est découverte de son impuissance. Je disais ce matin en plaisantant, en public, c'est pas facile de parler de son impuissance. Mais si, c'est la première des choses à faire, si vous voulez en sortir. Voilà, donc on fait ça. Et après, on constate donc que nous, si nous n'avons pu nourrir, et il faut le dire et le redire, que 10% de la population française, le modèle agro-industriel, lui, il en nourrit moins que nous. Puisque aujourd'hui, on constate qu'il y a 27 millions de Français, 26 millions déclarés en octobre l'année dernière, donc ça va faire un an bientôt, qui déclarent ne pas manger ce qu'ils souhaitent. Ce modèle agro-industriel dont la prétention, contrairement à nous, personne dans les milieux alternatifs n'a songé une seconde à dire que nous allions nourrir tous les Français. On est prudent. Le modèle agro-industriel s'est basé sur l'idée que vous aviez faim, que nous avions faim, et qu'il fallait construire l'abondance. On vous a vendu cette histoire-là. Et l'abondance, c'est les lois de 1960, 61, 62 de la modernisation agricole. Ces lois de modernisation agricole, elles ont échoué à vous nourrir. Il y a 26 millions de Français qui déclarent ne pas manger ce qu'ils souhaitent. Dans ces 26 millions de Français, il y a 10 millions de précaires alimentaires. On m'a dit qu'il y avait encore des gens qui mouraient de faim en France, au sens physique du terme. Je n'avais du mal à le croire, et les gens qui me l'ont dit savaient de quoi ils parlaient. On ne va pas faire pleurer sur l'autel de nos désespoirs, mais on en est là, et pour un paysan, c'est absolument inentendable. À partir de ce moment-là, on s'est mis donc à la recherche de comment on va se tirer de cette affaire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous allez sur le site de Réseau Civam. Il y a un site, alors je ne peux pas me passer du site de Réseau, hein, même si je veux me passer des machines. Il y a un moment où aujourd'hui, dans le monde actuel, si se passer de téléphone portable, c'est se priver d'une partie de sociabilité importante. Il faut avoir les moyens. J'entendais ce matin une réflexion. J'espère que la personne qui l'a dite est encore là. Une expression extrêmement désagréable qui disait que si vous êtes pauvre quand même et que vous avez un téléphone portable qui vaut 2 ou 3 000 balles ou 2 ou 300 balles, je ne sais même pas ce que ça vaut, vous pourriez le vendre et acheter à manger. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Vraiment arrêter de se foutre de la gueule du monde, c'est du mépris de classe le plus profond possible. Ça, je vous le dis ce matin, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, je vous le redis. Si vous pensez ça de la pauvreté, arrêtez. Arrêtez immédiatement de vous occuper des pauvres. Ce n'est pas possible. Et pareil pour la nourriture que vous absorbez. Qu'ils arrêtent de bouffer du sucre, qu'ils arrêtent de bouffer du sel, ils vont arrêter de grossir. Combien de fois on a entendu ce genre de choses? Est-ce que vous savez tous que quand vous êtes stressé, vous bouffez du sucre? C'est le meilleur moyen de compenser le stress. Chocolat équitable, tant qu'à faire, hein, on est bien. Mais le sucre, de manière générale. Et qu'est-ce qu'il y a de plus stressant que la pauvreté? Quand vous compensez d'une certaine forme de stress de la pauvreté par de la compensation de sucre, et qu'on vous la fournit en plus abondamment et gratuitement, comment voulez-vous qu'à un moment ça ne se traduise pas physiquement sur vous et sur vos enfants? C'est inévitable, ce genre de choses. Donc arrêtons ce mépris de classe-là, c'est inentendable. Donc vous allez sur le site Civam et vous verrez tout le développement qu'on a mis. On a un outil d'autodiagnostic qui vous permet de suivre. On a travaillé avec des travailleurs sociaux. C'est un programme du ministère de l'Agriculture à qui, un jour d'inattention, au moment où il allait fermer la porte, on a mis la main dedans, on a piqué un programme de 4 ans avec un financement assez conséquent. Et on a abouti à notre idée, c'était de participer à la controverse publique autour de l'alimentation en tant que paysan. Je crois qu'on y a réussi. On est là aujourd'hui. Votre présence le prouve. Donc vous verrez tous ces résultats-là. Le résultat principal, l'idée principale, parce que c'est plus qu'un résultat, c'est une idée, c'est une vision du monde à laquelle on est en train d'adhérer tous et qu'on vous propose, c'est une notion de socialisation de l'alimentation. Vous verrez qu'elle est imagée et pratiquement mise. On peut la mettre en pratique, Mathieu vous le dira tout à l'heure, parce que socialiser l'alimentation, c'est s'opposer à l'industrialisation. Le principe de l'industrialisation, le principe de base, c'est la division du travail et la séparation des tâches. On nous a dit à nous, produisez. Produisez sans vous soucier de l'environnement. L'environnement, c'est le support de votre production. D'autres s'occuperont de cette partie-là. Et produisez sans vous soucier de ceux qui vont absorber votre production. Ceux-là, d'autres aussi vont s'en occuper. Et nous, on a compris ça comme ça. Jamais personne dans la maison agricole ne s'est intéressé à ces questions-là que de manière marginale. Or, aujourd'hui, si on veut vraiment s'intéresser au changement, si on n'est plus d'accord avec cette façon industrielle de produire et ses conséquences sur l'environnement, eh bien, il faut qu'on brise ce dogme-là qui nous est donné de séparation des tâches et de division du travail, chacun à sa place et personne ne se parle. C'est ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, moi, c'est le plaisir et la raison pour laquelle j'ai répondu favorablement à votre invitation, quoi qu'il en coûte. C'est la raison, c'est la peine de la saison de le dire. C'est parce qu'il faut qu'on brise ça. Et donc, ça s'appelle socialisation. Et dans la socialisation, il y a plusieurs branches. Il y a un renouveau des politiques publiques. Il ne faut pas les réclamer rien à l'État, je vous le disais tout à l'heure. Mais tout à l'heure, il y avait un élu local qui nous prouvait qu'on pouvait éventuellement aller leur trouver quelque chose. Puis les politiques publiques, on peut aussi se les inventer. Il y a un statut du paysan profondément à changer. Et ça, il faut qu'on y réfléchisse les premiers. Mais vous, Terre de Liens, les AMAP et tout ça, vous êtes partie prenante de ce changement de statut. La réflexion étant que le capital ne doit plus appartenir aux paysans, mais à tout l'ensemble de ceux qui vont en avoir besoin, c'est-à-dire ceux qui consomment la nourriture. Et le troisième et dernier volet, que Mathieu, je vais lui passer la parole pour ça, va pouvoir développer, c'est la proposition d'une sécurité sociale de l'alimentation. Voilà où on en est aujourd'hui en termes de proposition politique.
Merci Jean-Claude. Oui, donc beaucoup de choses hein, que tu as développées, on y reviendra dans le débat. Justement, donc, sécurité sociale de l'alimentation, donc c'est une proposition qui est mise en débat, et l'objectif, c'est justement de développer le débat autour de ça, qui est une proposition de socialisation de l'alimentation, mais d'institutionnalisation aussi de quelque chose, c'est-à-dire qu'au-delà des différentes tentatives de répondre autrement à cette question de l'accessibilité de tous à l'alimentation, il y a la question d'institutionnaliser quelque chose qui permette, sur l'ensemble du territoire national, à tous d'accéder, de choisir son alimentation. Donc, est-ce que tu peux, alors je sais que c'est un peu difficile, Mathieu, mais est-ce que tu peux, nous, en 10-12 minutes, même à grand coup de hache, nous présenter cette sécurité sociale de l'alimentation? Je pense qu'ici, il y a un certain nombre de gens qui en ont déjà entendu parler, voilà, mais... Si tu peux nous le présenter, et puis on en débattra avec des précisions éventuelles par la suite.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Ça donnerait presque envie de vous laisser la parole avant pour rebondir et digérer tout ce qui vient d'être dit, parce que c'était extrêmement riche avant d'arriver avec une proposition qui n'est pas du tout en décalé de ce qui a été dit, mais qui est au contraire une réflexion qui nourrit de ces constats. À la fois, moi, dans ma carrière en tant qu'agronome, j'étais à l'école Jean-Claude Balbeau un moment pour... me nourrir de toutes ces réflexions-là il y a 4-5 ans, et c'est de là après qu'on a traduit en se disant comment on change les choses, en analysant aussi tout un tas de dynamiques qui ont été mises en place, comme ce qui a pu être présenté avant moi par Juliette et par Josiane, de se rendre compte de la nécessité de changer d'échelle par rapport à tout ça et de penser quelque chose à mettre dans le débat politique pour se confronter directement à l'ensemble de ces enjeux avec une proposition concrète et de porter le débat sur quelque chose de concret. Donc je me lance sans plus parler des enjeux parce que ça a été bien détaillé avant et on rebondira si vous avez envie de revenir sur les enjeux après dans le débat. Dans cette idée donc de dire comment on peut penser un système... alimentaire durable et mettre en avant un peu tout ça. Donc, ce qui a été bien détaillé par Josiane et par Juliette, c'est la volonté aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont en situation de précarité, le besoin urgent qu'il y a d'avoir un choix dans son alimentation, de pouvoir choisir son alimentation et de travailler ce truc-là. Ça veut dire quoi, choisir son alimentation? Et pour nous, ça veut dire deux choses. Ça veut dire individuellement avoir accès à des produits, parce que si on n'a pas accès, il y a des produits qui ne sont pas accessibles économiquement ou géographiquement ou culturellement, il y a beaucoup d'autres freins dans l'accès, ce sera compliqué. Donc il faut pouvoir travailler de rendre les produits accessibles un peu partout. Et puis avoir le choix, c'est aussi un mécanisme collectif. C'est aussi collectivement décider de ce qui va être produit. Si vous arrivez dans un magasin et que vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, mais qu'en fait, dans le magasin, il n'y a rien qui vous plaît, vous êtes emmerdé. Et donc, c'est collectivement se poser la question de qu'est-ce qu'on produit en France Et avoir le choix, bah, c'est pas juste en tant qu'acteur individuel pouvoir, pouvoir consommer ce qu'on a envie, c'est aussi collectivement se réapproprier la production agricole et alimentaire qu'on a en France pour faire en sorte, et c'est là pour moi le plus important dans, dans ce qu'a dit Jean-Claude, on va sortir de l'industrialisation pour passer à la socialisation. Le modèle industriel nous propose le prix comme expression de ce qu'on voudrait manger et la consommation comme un vecteur de notre expression alimentaire. L'idée, c'est de dire on arrête complètement avec ça, hein, on arrête avec cette idée qu'on s'exprime avec son porte-monnaie, parce que c'est un vote extrêmement censitaire et qui exclut 27 millions de la population aujourd'hui. Donc, on s'exprime en tant que citoyen, hein, et on va créer une démocratie alimentaire. Et on ne va pas avoir un objectif de dire comment on met du bio et du local partout. En fait, il y a une volonté même plus forte que ça, c'est de dire on va faire en sorte que l'agriculture soit souhaitée par la population. Parce qu'on sait ce que les gens ils ont envie de manger. Globalement, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de doute là-dessus, sur la volonté. On en reparlera d'une telle. Il n'y a pas de doute sur la question de quand on a le temps de se poser pour réfléchir et pour se réapproprier son alimentation, vers quel type d'alimentation on veut. Et donc d'avoir un mot d'ordre beaucoup plus puissant que celui qui est de la promotion d'un système agricole, mais qui est de dire on veut que l'ensemble de notre système alimentaire il soit décidé par la population et puisse être choisi, puisse être voulu et désiré et contré par là tous les discours qu'on nous fait comme quoi mais regardez, il y a des gens qui consomment du Nutella, ça veut dire qu'ils veulent du Nutella. Non, ça c'est autre chose et ça s'analyse et ça se décrypte. Et donc, partant de ces deux mécanismes-là, je réinsiste comme ça a été fait après par Jean-Claude, ces deux mécanismes sont nécessaires si on rentre par une entrée droit à l'alimentation, mais ils sont nécessaires aussi si on rentre par une entrée construction d'un système alimentaire durable. Si on a envie de transformer l'agriculture vers des choses un peu plus écologiques et sociales, bah en fait, à un moment donné, on ne va pas s'amuser à transformer l'ensemble de l'agriculture et puis à vendre nos produits pour les exporter et puis à importer des produits pour nourrir nos pauvres. Non, en fait, un système alimentaire, il est durable que si les personnes qui sont sur un territoire, elles ont accès aux produits qui sont produits. Et pour y avoir accès, il faut qu'économiquement, il y ait un système qui soit en place, qu'elles y aient accès. Et il faut aussi, bien sûr, qu'elle les ait voulu. Hein. Si, je ne sais pas, demain, on produisait que du blé et des lentilles en France, à un moment donné, on aurait envie d'autre chose. Donc, il faut aussi que ce soit équilibré, que ça corresponde à ce qu'on a envie de manger. Donc, que ce soit pour une entrée droit à l'alimentation ou pour une entrée penser un système alimentaire durable, la nécessité de se doter d'outils institutionnels qui nous permettent d'élaborer démocratiquement la demande alimentaire et de... Je vais utiliser ce mot-là qui me paraît très important, politiser l'insatisfaction alimentaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a toute une partie de la population française qui est dans une situation de non-choix et qui ne peut pas s'exprimer politiquement, qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc un gros travail là-dessus de politisation de l'insatisfaction alimentaire qui existe pour que cette voix-là porte et s'exprime et revendique son droit à pouvoir choisir son alimentation. Et donc, voilà, avec ces deux mécanismes-là, c'est-à-dire qu'il fallait se doter d'une institutionnalisation pour penser comment on met en place la démocratie alimentaire. Donc, démocratie alimentaire, à la fois choisir ensemble et à la fois avoir tous l'accès individuel. Et on s'est basé là-dessus sur la sécurité sociale de l'alimentation. Alors, je prends ça pour m'aider. C'est une petite BD qui vient de sortir, Encore des patates pour une sécurité sociale de l'alimentation, qu'on a rédigée avec le collectif qu'on a monté autour de ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, donc avec différentes organisations que vous retrouvez ici et d'autres. Et donc, se dire finalement, qu'est-ce qui, dans l'histoire de France, si on prend des objectifs un peu ambitieux d'éradiquer le système agro-industriel et de passer sur une socialisation de l'agriculture et de l'alimentation, autant être pragmatique après sur les moyens et qu'est-ce qui a existé et qui nous a permis dans l'histoire d'envisager une orientation d'un secteur économique complètement différemment de l'industrialisation, eh ben c'est le système de sécurité sociale de santé tel qu'il a fonctionné entre 1946 et 1967. Et c'est cette période-là de l'histoire qui nous intéresse et qui nous stimule pour penser l'institutionnalisation d'une démocratie alimentaire. Alors, après, ça reste des pistes de travail, ça reste une direction, un objet. Peut-être que dans, je sais pas, 2-3 ans, à force de discuter, on pourra changer, évoluer le projet. Mais aujourd'hui, il y a 3 mécanismes de base qu'on récupère à cette période de l'histoire de création de la sécurité sociale qui sont au cœur de ce qu'on défend. Le premier, c'est l'universalité. C'est de dire, si on veut créer du droit, surtout, on ne crée pas un mécanisme pour les pauvres. C'est très désagréable d'être aidé, d'être vu comme quelque chose d'aidé, d'être vu comme à part, de dépendre des autres. Hein. Personne ne se sent assisté, je pense, dans la salle quand il paye le médecin avec sa carte vitale. Pourquoi ? Parce que tout le monde a une carte vitale et qu'à partir du moment où tout le monde en a, c'est normal. Donc, c'est de dire surtout, on crée quelque chose qui soit avec une logique universelle où tout le monde a accès à, et on est parti sur l'idée de 150 euros par mois sur la carte vitale pour pouvoir avoir accès à de l'alimentation. Par personne, voilà, enfants compris et ainsi de suite. Le deuxième mécanisme de la sécurité sociale, c'est de créer des caisses de conventionnement, c'est-à-dire c'est l'accès individuel, les 150 euros par mois, et la caisse de conventionnement, c'est le côté choix démocratique, c'est-à-dire on ne va pas avoir accès à tous les produits qui existent, on va créer de la réflexion locale pour décider quels seront les produits qui seront accessibles avec cette carte. Et c'est là où il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, à la fois pour discuter collectivement de ce qu'on veut manger, et ensuite, par la suite, en utilisant le conventionnement, donc c'est-à-dire aller voir, c'est un peu sur le principe de la labellisation, hein, sur le principe d'un groupement d'achat de producteurs, on va décider de quel producteur on veut prendre dans le groupement d'achat, dans le supermarché coopératif. Moi, je suis Stéphane, je suis adhérent à La Fourmilière, par exemple. Voilà, c'est ce principe-là de décider de quel produit on veut dans le magasin. Et eh bien, de la même façon, on va établir les critères qui vont faire en sorte qu'on veut des paysans et choisir des choses qui sont déjà produites. Et puis surtout, hein, c'est un des énormes freins à la transition du système agroécologique aujourd'hui. En tout cas, l'évaluation de la politique agroécologique de Stéphane Le Foll qui a été faite en 2018, qui était ministre de l'Agriculture sur la transition agroécologique, c'est-à-dire que le gros frein à la transition, c'était l'inexistence de filières qui permettent d'accompagner la transition. Aujourd'hui, il y a des petits trucs du côté du bio, mais après, entre les deux, il n'y a rien qui existe, rien qui est fait. Et la nécessité de transformer par la demande, de dire « Aujourd'hui, nous, on vous propose de vous prendre vos produits à un prix qui vous permettra de vous rémunérer et ainsi de suite, à condition que vous arrivez à tel et tel critère. Mais par contre, dans les 2-3 ans de faire la transition, d'accompagner la transition de système, il y a un levier et un par la demande et un mécanisme de transition de l'agriculture qui nous paraît extrêmement important. » Et le troisième mécanisme qu'on reprend à la sécurité sociale, c'est le principe du financement par la cotisation. Donc le principe de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Hein. On arrête avec le discours de dire t'achètes pas de smartphone et tu pourras t'acheter du bio. Moi, tout à l'heure, je me suis levé et je suis parti quand la personne a dit ça. Je trouve ça inadmissible. Non, on lui dit, écoute, on va partager ce qu'on a, on va se mettre la même chose dans la poche et on décidera ensemble de ce qu'on achète. Et là, il commence à y avoir un petit peu plus d'égalité. Et donc, on cotise, on prend. Hein, on fait plusieurs réflexions sur comment on pourrait calculer ces taux de cotisation au plus juste et tout ça. Je rentre pas dans les détails, mais l'idée, c'est de dire qu'on pourrait se baser sur le fonctionnement des cotisations sociales aujourd'hui pour la médecine et on retombe sur des choses qui reviennent vers une forme d'égalité très forte entre les différentes catégories sociales pour se financer tous un accès à une alimentation collective qu'on choisit. C'est en gros le principe d'une AMAP, mais d'une giga AMAP, pensez à tout le monde, où on s'assure que des producteurs vont nous produire ce qu'on a envie de produire et leur salaire, comme dans une AMAP, hein, c'est plus le prix des fruits et des légumes, c'est le salaire du producteur qui est divisé par rapport au nombre de paniers et ainsi de suite. Et on assure que les paysans peuvent vivre correctement, peuvent se lancer dans cette transition de système, peuvent produire ce que la population a envie de manger. Parce que c'est ça le mot d'ordre qui nous paraît extrêmement important après avoir travaillé sur toutes ces questions et pensé système alimentaire. J'espère que je n'ai pas été trop long.
Très bien. Très bien, très bien.
À vous.
Bon, et bien écoutez, merci.